De retour à l'émission de littérature, en compagnie de Laurent de Sutter, nous parlons de L'âge de l'anesthésie, la mise sous contrôle des affects, sortie aux éditions Les Liens qui Libèrent. Bonjour Laurent de Sutter, merci d'être en direct avec nous par téléphone.
Bonjour.
Pouvez-vous nous parler de ce qui préside à ce livre ?
Bien, beaucoup de choses, comme d'habitude avec les livres, parce que les livres sont toujours des mélanges d'affects, de circonstances et puis de préoccupations au long cours. Dans le cas de ce livre-ci, dans le cas de L'âge de l'anesthésie, j'avais envie de travailler sur un concept qui m'avait un peu chipoté lorsque j'écrivais un livre précédent, qui était un livre, figurez-vous, sur le striptease, qui est le concept d'excitation, dans la mesure où c'est un concept qui me paraissait manquer d'élucidation dans le contemporain, alors même que l'on entend partout parler de plaintes de sociologues, de philosophes, d'éditorialistes qui se plaignent que nous vivons une époque en proie aux accélérations les plus frénétiques, hein, une époque qui aurait besoin de calme, de sérénité, de décroissance, etc., etc., etc. Et j'ai toujours trouvé que ces appels étaient des appels qui sonnaient un petit peu faux et qui passaient complètement à côté, d'une certaine manière, de l'histoire de ce concept, de l'histoire de cette idée, en tant que cette idée a été tripotée, manipulée et construite aussi tout au long de la seconde moitié du 19e siècle et tout au long du 20e siècle comme une catégorie repoussoir. Et par contraste, avec cette absence d'études, moi je suis toujours frappé, et c'est cette intuition-là qui m'a porté à écrire ce livre, je suis toujours frappé par le fait que ce dont il est question davantage que d'accélération ou davantage que d'hyper-sollicitation de l'attention dans le présent, moi, ce qui me paraît caractériser notre période, c'est la généralisation absolue de la dépression. Voilà, c'est ce contraste entre dépression comme transcendantale de notre époque et excitation comme impensée de notre époque que j'ai voulu traiter dans ce livre.
Donc, votre intuition, c'était de partir du concept de l'excitation. Effectivement, vous en êtes arrivé rapidement à ce concept de dépression qui est une grande généralisation actuelle que nous entendons partout. Et à partir de cette intuition, vous êtes intéressé à l'histoire de certaines substances chimiques.
Oui, parce que une chose qui est certaine, si vous voulez, c'est que l'humanité n'est humaine, si j'ose dire, qu'en tant qu'elle est prothétique, c'est-à-dire il n'y a d'humanité qu'en tant que se soutenant d'une multiplicité d'accessoires, une multiplicité de produits, une multiplicité de pratiques qui font qu'elle est humaine. Et parmi ces pratiques, il y a évidemment la chimie aussi bien au sens le plus simple, c'est-à-dire celui au fond de la nourriture, la chimie de notre digestion, que la chimie de haute voltige qui est celle de l'industrie pharmaceutique et de la pharmacologie. Et donc, de fait, il existe un lien très très fort entre développement de la pharmacologie moderne, de la pharmacie moderne, et ce concept qui m'intéressait, ce concept d'excitation, concomitant, si vous voulez, qui naît dans les années, disons, 1860, 1870, toute une série de découvertes à la fois dans le fonctionnement des émotions humaines, fonctionnement aussi bien au niveau du cerveau qu'au niveau de la circulation de ces messagers interorganes que sont les hormones, mais également de découvertes qui sont des découvertes qui relèvent par exemple de la psychopathologie, et je prends comme exemple ici cette figure malheureusement, en dehors des cercles spécialisés de psychiatres et d'historiens de la psychiatrie, trop oublié, qui est la figure de Émile Kraepelin. Émile Kraepelin qui, en 1899, formule pour la première fois, de façon synthétique et comme une catégorie nosographique, une catégorie de diagnostic, la catégorie de psychose manéco-dépressive, rassemblant ainsi en une seule catégorie, disons, ces deux grandes traditions de l'Occident que sont la mélancolie d'un côté et la manie de l'autre. Mais ce faisant, ce que dit Kraepelin, c'est la chose suivante, c'est voilà, nous avons ces malades, ces gens malheureux qui sont ceux qui souffrent de psychose maniaco-dépressive. Alors il va de soi que ces gens, d'un côté, on ne peut pas les guérir, hein. Kraepelin est un eugéniste et ne croit pas du tout à la possibilité que les fous cessent de devenir fous, donc d'un côté on ne peut pas les guérir, mais de l'autre côté, ce que l'on peut faire, c'est les rendre supportables. Les rendre supportables pourquoi ? Tout simplement parce que dans la psychose maniaco-dépressive, ce qui est insupportable pour Kraepelin, et il va être suivi d'une certaine manière par toute la profession, c'est pas tellement le fait que voilà, ces gens souffrent ou soient pas très très bien, c'est le fait que dans la psychose maniaco-dépressive, il y a un problème qui est la partie maniaque. Et donc, d'une certaine manière, il va s'efforcer, Crépelin, dans le traitement et dans le traitement en asile, mais également dans l'usage de toute une série de substances chimiques nouvelles à l'époque, il va s'efforcer de d'écraser la manie et de faire des maniaco-dépressifs des bons malades, à savoir des dépressifs. Et dans ses traités, dans ses écrits, ce qui est absolument patent, c'est que la catégorie, à nouveau, qu'il utilise pour définir la nécessité d'en finir avec la manie à l'intérieur de la psychose maniaco-dépressive, qu'on appellerait trouble bipolaire aujourd'hui, eh bien, c'est précisément l'excitation. L'excitation, c'est le mal, l'excitation, c'est l'ennemi que la chimie de son époque, ainsi que son propre génie diagnostique, lui permettent d'éradiquer.
Oui, vous consacrez vraiment de très très belles pages à Émile Crapelin, notamment, je vais vous citer un petit peu, il était évident pour Crapelin, comme pour les défenseurs de la chlorpromazine, on va en parler un petit peu de la chlorpromazine, qui est donc une des premières substances chimiques qui va pouvoir être utilisée, ce qui importait avant tout était la stabilité. La première préoccupation de tout psychiatre était d'en finir avec les oscillations irrépressible de l'excitation. Il fallait que la nécessité de l'être fût affirmée et que cette affirmation s'accompagnât de la défense de tout ce qui le maintenait dans ses limites. Là, on sent bien le croisement entre votre intérêt pour le concept d'excitation et puis cette généralisation des problèmes psychologiques, notamment dépressifs, et du fait qu'il faut normaliser la personne, c'est-à-dire stabiliser, réduire au maximum ce qui pourrait être d'excessif chez elle.
Voilà, exactement. C'est une scène, si vous voulez, qui est une scène qui, pour moi, est très, très forte. Et ce n'est pas la seule. Hein. Le livre, d'une certaine manière, est une série d'explorations, de scènes de cet ordre-là. Il y a Émile Crépelin et la naissance de cette catégorie de psychose maniaco-dépressive avec le traitement médicamenteux qui l'accompagne. Il y a aussi la naissance de la pharmacie des drogues récréatives, à commencer par la cocaïne dans l'Allemagne de la seconde moitié du 19e siècle et qui concomitante avec le développement du capitalisme industriel en Allemagne. Il y a toute une série de scènes comme ça qui m'ont intéressé d'abord parce qu'évidemment elles nous permettent de penser à l'excitation, à cette figure particulière de l'excitation comme étant quelque chose qu'on a un petit peu trop rapidement évacué ou trop rapidement rattaché à au fait que, voilà, à la nervosité, voire à l'excitation sexuelle, etc., alors qu'il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond, d'une part, mais d'autre part, évidemment, mon intérêt là-dedans est un intérêt théorique, c'est, et la citation, enfin, l'extrait que vous venez de lire l'illustre relativement bien, je crois que dont il est question derrière tout cela, davantage que, disons, d'une psychopolitique, plutôt qu'une biopolitique, hein, qu'il serait facile et un peu paresseux de dénoncer. Ce dont il est question derrière tout ça, c'est une véritable conception de l'être humain, et derrière cette conception de l'être humain, une véritable métaphysique, c'est-à-dire une véritable théorie de l'être. La thèse, d'une certaine manière, qui traverse le livre, et qui est une thèse qui paraîtra peut-être à certains abstraite, mais qui me paraît essentielle pour comprendre ce dernier siècle et demi d'évolution dans le domaine de la psychiatrie, c'est effectivement que l'être, c'est le bien, et que tout ce qui permet de s'écarter de la figure de l'être, c'est le mal. L'être, c'est le bien, c'est-à-dire le fait d'être confiné dans les limites d'un être dont les traits, les caractéristiques sont définis par un cahier des charges relativement rassurant. Hein. L'être, c'est celui qui se maîtrise à l'intérieur de ses limites, celui qui reste à l'intérieur de ses limites. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup intéressé dans la mesure où on voit... du coup, une tradition philosophique occidentale, une tradition métaphysique occidentale, tradition du sujet maître de lui-même, tradition du sujet libéral maître de ses droits, etc., etc., devenir l'allié objectif d'une politique psychiatrique et d'une politique pharmacologique, à moins que ce soit l'inverse, bien évidemment, et que ce soit cette métaphysique qui devienne l'allié de cette politique. Ça, je ne tranche pas la question. Et donc cette question-là est une question qui traverse en filigrane derrière ces scènes que j'ai mentionné tout à l'heure. Derrière cette scène, il y a cette préoccupation, cette question, cette thèse sur le statut de cette catégorie philosophique et la catégorie d'être comme catégorie devenant une catégorie au fond policière.
Oui, et puis il y a un élément supplémentaire qu'on pourrait rajouter, c'est quand vous parlez de la cocaïne, vous pointez le cœur du problème. Je vous cite. La cocaïne était un opérateur d'efficacité. Un opérateur d'efficacité. Lorsqu'un individu souffrait de difficultés liées à un état dépressif ou à des troubles physiques, la substance permettait de compter cette souffrance pour rien. Cette souffrance pour rien. Vous insistez beaucoup dans de très belles pages également sur cette souffrance pour rien.
Oui, il y a dans que ce soit pour la cocaïne, que ce soit les antidépresseurs, que ce soit aussi le contrôle de la nuit, etc. Ce que l'on voit se déployer à nouveau à partir du milieu des années à partir du milieu du 19e siècle, c'est une politique et du politique de l'ablation. Donc on compte la souffrance pour rien, on compte les peines pour rien. Ça signifie que pour qu'il y ait un sujet, pour qu'il y ait un être digne de ce nom, eh bien tous ces suppléments inutiles que sont la souffrance, que sont la manie, qu'est l'excitation au fond, tous ces suppléments doivent pouvoir être enlevés pour que l'être humain se réconcilie avec son cœur, son essence propre, sa pureté d'être effectivement efficace en pleine possession de ses moyens, etc., etc. Ce qui donne évidemment dans le contexte contemporain du travail la figure du travailleur qui ne manque pas à ses devoirs. Du reste, c'est pas un hasard si la figure du travailleur comme modèle de l'être intervient à plusieurs reprises dans le livre et dans mon espèce de panorama comme ça archéologico-généalogique. C'est parce que, bien évidemment, ce dont il est question, c'est de toujours mettre les choses à l'ouvrage. Hein. L'être n'est pas une catégorie neutre, une catégorie finie, c'est pas juste une catégorie descriptive comme ça de la nature humaine ou de ce que serait qu'un bon être humain. C'est une catégorie active, c'est une catégorie qui vise à activer les individus dans une certaine direction plutôt que dans une autre. Donc oui, en effet, tenir la souffrance pour rien, c'est dire au fond, vous n'avez pas besoin de cet accessoire est secondaire et on peut vous en débarrasser sans que vous y perdiez grand-chose, sans que vous perdiez en essence d'une certaine manière. Au contraire, si on vous en débarrasse, vous serez plus essentiel. Cette souffrance est non souhaitable, non désirable et est au fond un parasite qui vous excite. Hein, qui vous excite, c'est-à-dire au sens étymologique du terme, qui vous fait sortir hors de vous-même. Excitare, c'est ça, c'est être convoqué, hein, c'est un terme qui vient du lexique judiciaire romain, c'est être convoqué à l'extérieur de soi-même, être convoqué hors des limites admises de sa personne, hors de son chez-soi, d'une certaine manière, qui est le chez-soi de l'être. Il y a quelque chose là, je pense, de très très fort, et qui se trouve confirmé, si vous voulez, par une autre scène que je raconte dans le livre et qui concomitante historiquement avec les autres, hein, on est toujours dans les années 1860, entre 1860 et 1890, qui est au fond la naissance de cette figure qui va faire peur à toute la théorie politique, à toute la science politique naissante, à toute la sociologie naissante, mais également à la psychanalyse naissante, qui va être la figure des masses. Et depuis le moment où la théorie des masses apparaît dans le lexique européen par l'intermédiaire d'un criminologue italien qui s'appelle Sigele à la fin des années 1880, eh bien c'est à nouveau autour du concept d'excitation que toutes les peurs vont se cristalliser. Le problème des foules, c'est qu'elles sont excitables et qu'elles sont le vecteur des excitations individuelles qui font que les êtres se perdent dans les foules, que les limites de l'être à nouveau se trouvent dissoutes dans la folie des foules, hein, c'est l'expression de Sigele, folie des foules qui leur font faire n'importe quoi. Et donc la grande crainte, si vous voulez, d'une certaine manière, est liée à nouveau à la question du travail. C'est les foules peuvent faire n'importe quoi, en ce compris, oresco referens, la révolution. En ce compris, oresco referens, se dresser contre la police ou faire autre chose que ce que les gens bien intentionnés voudraient qu'elles fassent. Donc vous voyez, tout cela dessine un paysage intellectuel qui est un paysage intellectuel assez saisissant, en tout cas que j'ai trouvé assez saisissant pour ressentir la nécessité d'en raconter comme ça les racines.
Et puis il y a le problème pour la personne. Vous écrivez qu'à l'âge de l'anesthésie, il n'y a d'existence que sous la forme d'une ascèse psychique. Ça, c'est pour l'individu. Vous écrivez également qu'à l'âge de l'anesthésie, c'est l'âge de l'organisation chimique de la séparation, l'âge où chaque problème doit être considéré comme relevant de celui qui en souffre, sans que jamais, jamais, celui-ci puisse être réinscrit dans ce qui le dépasse, c'est-à-dire en gros réinscrit dans l'extériorité, c'est-à-dire dans le monde, c'est-à-dire dans la société capitaliste.
Mais absolument. À nouveau, si il y a cette insistance si forte sur cette catégorie de l'être, dans le livre, ça apparaît. J'ai essayé d'être de pas être trop lourd, disons, sur toutes ces questions théoriques, et de les faire ressentir davantage que véritablement les marteler de manière trop systématique. Mais puisqu'on en parle, en effet, ce dont il est question avec cette catégorie de lettres, c'est vraiment la figure du marché droit. C'est la figure d'une certaine forme de police des comportements sous couvert de bienveillance, hein, et sous couvert d'une bienveillance qui ensuite vous renvoie à la responsabilité de faire consister votre être. Hein. Si vous êtes excité d'une certaine manière, si vous n'arrêtez pas de foutre le camp, de fuir dans tous les sens, comme les enfants hyperactifs d'aujourd'hui à qui on donne de la rilatine, qui est un dérivé extrêmement purifié, extrêmement dense, au fond, de cocaïne, hein. Je veux dire, c'est pas autre chose que cela. Si on veut vous concentrer, ou si on demande de vous que vous soyez concentré, il va de soi que cette concentration ayant un lien direct avec votre essence, avec votre être, eh bien, d'une certaine manière, c'est de votre responsabilité dont il est question. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est simplement vous donner les instruments qui, en tant qu'être responsable, ces instruments que vous allez prendre pour pouvoir retrouver cette essence de vous-même, n'est-ce pas? Et vous allez gober, vous allez commencer à gober des pilules à longueur de temps. Alors, je précise en passant, parce que c'est quelque chose qu'on pourrait croire peut-être en entendant mes propos maintenant, je précise que je ne suis pas contre ces substances, les substances dont je parle, qu'il s'agisse d'antidépresseurs, qu'il s'agisse des anxiolytiques, qu'il s'agisse des drogues de toutes sortes et de toutes espèces. Hein. Il ne s'agit pas de faire la police des substances. Il s'agit simplement d'attirer l'attention sur la construction d'un usage très singulier de ces substances, ainsi que la métaphysique qui les soutient, qui s'est déployée durant le dernier siècle et demi. Je le répète, les êtres humains ont toujours été de nature prothétique. On a toujours eu besoin d'accessoires. Il n'y a pas de naturalité humaine, si vous voulez. Ce sont les accessoires qui font de nous les êtres humains. Et donc la chimie, en ce compris la chimie de la dépression, ne me pose aucun problème de ce point de vue-là. Simplement, les usages que l'on fait de cette chimie dans une certaine orientation que je nomme psychopolitique aujourd'hui, ça effectivement, ça me pose un problème, en tout cas un problème suffisamment important pour nécessiter de le redire, voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Laurent de Sutter, d'avoir été en direct avec nous par téléphone. Merci.
Eh bien, merci beaucoup à vous. Merci pour votre invitation.